Ah, l'adolescence, un âge difficile.
Assez fréquent chez les préadolescents. Elle en a tous les symptômes. Hyperactivité, saut d'humeur...
Écoute, je suis occupée à profiter de mon adolescence, alors fiche-moi la paix et fais la même chose.
Bah, oui, mais parfois on change à l'adolescence.
Les ados, ça se lève pas tôt, normalement.
Il y a tout du monde merveilleux des adolescentes.
C'est un miracle. Un adolescent qui dit non à la drogue et dit oui à l'instruction, c'est un miracle.
So, may we start?
Et maintenant, les ateliers radiophoniques de Canal B.
L'émission que vous allez entendre aujourd'hui a été enregistrée au lycée Simone Veil de Liffré, où Sylvie Lecune, professeure documentaliste, a installé un studio radio, Simone en Air. Avec ses collègues d'histoire-géographie, Chloé Gégou et Marie Michelet, elles ont accompagné cette année deux classes de seconde, les 205 et les 212, dans un projet d'éducation aux médias et à l'information. Ce travail a été récompensé du premier prix du concours Mediatix organisé par le CLEMI sous la houlette de Sylvie Patea, coordonnatrice académique du CLEMI Bretagne et référente académique EMI. Dans ce second épisode, place aux élèves de la seconde 12, les 212, qui ont travaillé sur l'état de la presse en France et sur les pratiques informationnelles adolescentes.
Vous êtes sur Simone on Air.
Derrière l'info, qui dit vrai ?
Bonjour et bienvenue dans le lycée Simone Veil Radio. Ici Charlie et aujourd'hui nous allons vous présenter la profession de journaliste. On entend souvent parler des journalistes, mais savez-vous vraiment qui ils sont, où ils travaillent et quelles sont les règles d'art de leur métier ? Nous allons vous expliquer tout ça grâce à une enquête menée par Timothée qui va pouvoir répondre aux questions de notre intervieweuse Liana. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'un journaliste ? Et pour le savoir, je laisse la parole à Liana et Timothée.
Alors, commençons par le début. En quoi consiste vraiment le métier de journaliste ?
Être journaliste, c'est avant tout un engagement. Il faut chercher l'information, la vérifier, la rédiger et enfin la partager. L'idée est simple, faire en sorte que les infos soient claires, fiables et compréhensibles pour tout le monde. Et pour ça, on peut utiliser plusieurs supports, la presse écrite, la radio, les sites web ou même la télévision.
Mais est-ce que les journalistes travaillent toujours seuls ?
Non, pas vraiment. Un journaliste peut présenter des informations, réaliser des reportages, faire des interviews ou encore occuper des postes comme rédacteur en chef. Et là, travailler en équipe peut vraiment faire la différence, surtout selon le type de journaliste.
Pourquoi travailler en équipe ?
Parce que travailler à plusieurs permet d'assurer une meilleure qualité de l'information, que ce soit pour vérifier les faits, effectuer des recherches ou monter un reportage. L'équipe aide à produire des sujets plus solides et mieux documentés. Et puis, certaines enquêtes demandent de travailler sur beaucoup de données ou de contacter plein de sources. Dans ces cas-là, avancer à plusieurs, c'est plus rapide, plus efficace. Et ça permet aussi de croiser les infos et d'avoir une vision plus objective de ce que l'on va transmettre.
Être journaliste est donc un métier compliqué. Il faut savoir travailler en équipe, mais aussi faire des investigations et rédiger seul. Maintenant, pouvez-vous nous expliquer comment les journalistes trouvent les informations, comment ils les rédigent et est-ce qu'il faut être vigilant ?
Alors, pour commencer, pourquoi est-il si important pour un journaliste de vérifier l'information avant de la publier ?
C'est essentiel parce qu'une information fausse peut entraîner des conséquences graves. Si on se base sur une fausse information, on peut non seulement induire le public en erreur, mais aussi faire du tort à la réputation d'individus ou d'institutions, et même aux médias pour lesquels on travaille, que l'on décrédibilise. En tant que journaliste, on a la responsabilité de garantir que ce qu'on diffuse est sûr. Ça passe par la vérification des sources, mais aussi par l'analyse critique des données et des témoignages qu'on reçoit.
C'est donc plus qu'une question de confiance et aussi une question de responsabilité, n'est-ce pas ?
Exactement. Le journalisme, c'est un peu comme être un détective. On doit recouper l'information de différentes sources, vérifier les faits, et parfois, tout ne se fait pas dans la simplicité. Par exemple, une information peut paraître vraie, mais lorsqu'on creuse un peu plus, on se rend compte qu'il manque des éléments cruciaux. La rigueur est fondamentale.
Parlons justement de la recoupe d'informations. Les journalistes travaillent avec plusieurs sources avant de publier ?
Oui, absolument. Le regroupement est l'une des pierres angulaires du journalisme d'investigation. On ne se fie jamais à une seule source. Parfois, une information peut sembler vérifiable, mais si d'autres sources ne confirment pas ce qu'on a entendu, il y a un problème. il est crucial de chercher plusieurs angles, de consulter les experts ou même de consulter des documents officiels pour se faire une idée plus précise.
Cela semble être un travail assez intense. Et dans ce cadre-là, comment les journalistes gèrent-ils la pression extérieure, qu'elle soit éditoriale ou liée à des intérêts commerciaux ?
C'est là que l'honnêteté du journaliste entre en jeu. Il est facile de se laisser influencer, que ce soit par des annonceurs ou même la pression de publier rapidement. Mais c'est là qu'il faut garder son intégrité. Le journalisme, au fond, c'est servir le public, pas des intérêts privés ou commerciaux. C'est pourquoi il est crucial de toujours se demander est-ce que cette information respecte la vérité ? Et sinon, pourquoi ? Si l'on cède à des pressions et qu'on publie une information sans en avoir vérifié tous les aspects, on perd non seulement notre crédibilité, mais aussi la confiance du public.
C'est fascinant, mais avec l'explosion des fake news et des informations non vérifiées, comment un journaliste fait-il la différence entre une rumeur et une information fiable ?
C'est un défi quotidien. Il faut d'abord évaluer les sources de l'information. Est-ce une source reconnue, vérifiée, fiable ? Ensuite, il faut croiser l'information avec d'autres sources crédibles. Parfois, l'intuition joue aussi un rôle. Si une information semble trop extraordinaire ou émotive, il y a de grandes chances qu'elle soit incomplète ou bancale. Il est aussi crucial d'examiner la réaction des autorités compétentes ou des experts sur le sujet. Mais au final, la vérification est un processus constant qui nécessite une surveillance continue.
En effet, la vigilance est de mise. Pour revenir sur le point de l'honnêteté, comment concilier l'honnêteté et l'impartialité dans le travail de journaliste ?
L'honnêteté, c'est d'abord de ne pas trafiquer les faits ou les interprétations. Le journaliste est un témoin de son époque et il doit raconter la réalité de manière aussi objective que possible. Cela dit, l'impartialité ne peut pas dire équilibre parfait entre tous les points de vue, mais plutôt un respect des faits. Si un événement ou un fait est prouvé, il n'y a pas besoin d'équilibrer ce fait avec une opinion opposée. L'honnêteté, c'est aussi admettre qu'on ne sait pas quelque chose, plutôt que de remplir les blancs avec des suppositions.
C'est un excellent point. Et pour terminer, quel conseil donneriez-vous aux jeunes journalistes qui débutent dans ce métier, surtout face à la tentation de publier rapidement sur les réseaux sociaux ?
Je leur dirais de toujours privilégier la véracité plutôt que la vitesse. Les réseaux sociaux favorisent la publication instantanée, mais cela ne doit pas remplacer la rigueur journalistique. Une information vérifiée, recoupée et bien sourcée aura toujours plus de valeur à long terme qu'une information partagée sans précaution. Et surtout, n'ayez pas peur de poser des questions. Si quelque chose vous semble flou ou incohérent, creusez davantage. Le journalisme est un travail de minutie et la vérité vaut toujours la peine d'être recherchée.
Pour conclure cet échange, nous rappelle que le journalisme repose avant tout sur des valeurs essentielles, la rigueur, l'honnêteté et la vérification des faits. À l'heure où l'information circule inédite, notamment sur les réseaux sociaux, le rôle du journalisme est plus jamais crucial. Recouper les sources, prendre le temps d'analyser, accepter de douter et de reconnaître que l'on ne sait pas autant de principes indispensables pour préserver la confiance du public. Face aux fake news et aux pressions diverses, le journaliste reste un travail de patience et de responsabilité, où la recherche de la vérité doit toujours primer sur la rapidité. C'est cette exigence qui donne tout le sens à ce métier et qui garantit une information fiable et de qualité, même si cela prend du temps. Merci beaucoup Timothée et Liana d'avoir pris le temps de partager votre expérience et votre regard sur le journalisme. Cet échange nous a permis de mieux comprendre les enjeux de la vérification, de l'information et de l'importance de l'honnêteté dans ce métier. Merci à vous de nous avoir écoutés. On espère que ce podcast vous aura plu et vous aura aidé à réfléchir à la façon dont l'information est produite aujourd'hui. À très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir et merci de nous avoir écoutés.
La vérité avant tout, un podcast lycéen.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes en compagnie de deux journalistes, Manuela et Maya, ainsi qu'Erwan, journaliste que nous allons interviewer aujourd'hui. Nous allons parler d'un sujet très important avec vous, la déontologie des journalistes et les lois qui encadrent cette profession. Mais la déontologie, c'est quoi en fait ?
C'est l'ensemble des règles et obligations dans le cadre professionnel. Elle sert à instaurer un environnement de travail respectueux, sain et agréable. On retrouve ce principe dans différents métiers comme chez les avocats, les architectes, les infirmiers ou encore les policiers. Et du coup, la déontologie des journalistes, c'est exactement comme les métiers précédents. Il y a des règles et des devoirs à respecter pour un bon fonctionnement. Mais quelles sont ces règles exactement ? Eh bien, on va voir cela juste après.
Mais avant, connaissez-vous la charte de Munich ? Alors la charte de Munich, qui est adoptée en 1971, est un texte créé et fondé des années plus tôt par les journalistes européens. Le texte s'agit pour eux de protéger leur indépendance face à des pressions politiques et économiques. Paul Parisot y joue un rôle central puisqu'il rédige la déclaration des devoirs et des droits des journalistes qui deviendra la célèbre charte de Munich. En 1966, il obtient la création de l'Union nationale des syndicats des journalistes, un groupe visant à rassembler les journalistes et à défendre leur métier. Puis, en 1968, le déroulement se renforce. En effet, les syndicats français, belges et allemands expriment leur mécontentement, car les journalistes européens ne bénéficient pas de protection suffisante pour exercer leur travail librement. C'est pourquoi, dans ce contexte, une conférence est organisée à Munich en 1971. Enfin, le texte est signé par l'ensemble des syndicats français, ainsi que par l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas. Mais Maya, que proclame vraiment la Charte de Munich ?
Eh bien, la Charte de Munich proclame 10 devoirs sur les journalistes. En fait, les 10 devoirs sont les 10 règles à respecter. Parmi elles, il y a le fait que les journalistes doivent respecter la vie privée des personnes pour les protéger, garder le secret professionnel et ne pas divulguer les sources qui les protègent contre les actions de la police. Les journalistes ne doivent pas utiliser de méthodes malhonnêtes pour obtenir des informations. De plus, ils doivent s'engager à publier des informations vérifiées et exactes en évitant les accusations sans preuve, sinon on appelle ça une infox. Par ailleurs, ils ont l'obligation de rester neutres et éviter de donner leur avis personnel. Ils sont tenus d'assurer une représentation équilibrée des points de vue dans leurs reportages. Par exemple, lorsqu'une femme parle, elle doit avoir le même temps de parole qu'un homme. Il existe encore d'autres lois, vous en doutez sûrement. Mais maintenant, nous allons interviewer un journaliste sur ce qu'il en pense de son point de vue. À présent, passons à cette interview avec Erwan, notre journaliste. Bonjour, nous enquêtons sur la déontologie. Pour être plus précis, sur la déontologie des journalistes. Vous êtes bien journaliste ?
Bonjour, je suis bel et bien journaliste depuis longtemps. La déontologie des journalistes est en effet très importante au sein de la société.
D'après vous, la déontologie vous dérange-t-elle ? Et de plus, est-ce que vous restez libre avec ces règles ?
Non, la déontologie du métier des journalistes ne me dérange absolument pas. Ça n'est aucunement une contrainte pour moi, je me sens toujours autant libre. Car en effet, en France, nous avons des lois qui encadrent le journalisme, qui nous permet justement d'être libres et donc de nous protéger. On a les lois de 1881, également celle de 1010 sur la protection des sources. Ce qui laisse effectivement de la liberté pour qu'on reste dans le cadre de la loi, c'est-à-dire qu'on ne diffame pas, on n'insiste pas à la haine. Mais en fait, il n'y a jamais de contrainte avec cette déontologie. Si on veut bien faire son métier, il faut avouer que cette déontologie, elle est parfaite. On doit respecter la vie des gens, l'anonymat, la loi, et donc il n'y a aucune contrainte. Et ceux qui diraient l'inverse, il me semble qu'ils ne font pas le métier de journaliste.
Merci beaucoup pour cette réponse. La déontologie vous semble-t-elle fondamentale pour maintenir le respect et la confiance avec la population envers les journalistes ?
Oui, bien sûr. Mais moi, je me pose la question de savoir si beaucoup de personnes connaissent la Charte de Munich. Bien sûr, ils doivent imaginer qu'il y a une déontologie chez les journalistes, qu'on fait pas n'importe quoi, mais je suis pas sûr que la plupart des gens connaissent vraiment bien les règles fixées pour les journalistes. Mais bien sûr, c'est très important pour garder la confiance et le respect des gens. Et je pense qu'on l'a un peu perdu. Après, il y a aussi le fait que les gens puissent imaginer qu'on révèle des choses pour faire du buzz ou des scoops. Et ça, c'est faux. Nous aussi, journalistes, on a un devoir par rapport au public, s'il y a un danger, de les avertir.
Pouvez-vous nous faire part d'un événement qui pourrait illustrer ce que vous nous dites ?
Il y a eu récemment ce qui se passe auprès de l'étang de Thau, où il y a des locaux de journalistes qui ont été incendiés parce que les ostréiculteurs du coin étaient mécontents que le journal ait pu indiquer au public qu'il y avait un problème dans cet étang. Donc ça fait partie de notre métier d'informer le lecteur et lectrice, même si on ne le faisait pas, ça serait limite grave. Donc je reviens au début, je ne suis pas sûr que tout le monde sache vraiment quelle est la déontologie du journalisme, donc j'aimerais plus de pédagogie, mais en tout cas, bien sûr que c'est important de garder le respect et la confiance des gens, et qu'ils sachent bien que nous sommes là pour eux.
Eh bien, en parlant de confiance, merci de nous avoir fait part de votre pensée et avis, bonne continuation.
Merci à vous également, bonne fin de journée, j'espère que vous avoir rendu service.
Vous êtes sur Simone On Air.
Pourquoi dit-on que la presse est le quatrième pouvoir en France ? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouveau podcast Info Clé.
Aujourd'hui, on s'attaque à une formule que vous avez sûrement déjà entendue. On dit que la presse est le quatrième pouvoir en France, mais pourquoi ? Et surtout, qu'est-ce que cela veut dire concrètement pour notre démocratie ? C'est ce que l'on va décortiquer ensemble.
Qu'est-ce que le quatrième pouvoir ?
Vous le savez, une démocratie repose sur la séparation des pouvoirs. Le pouvoir exécutif, celui qui gouverne, le pouvoir législatif, celui qui fait les lois, et enfin, le pouvoir judiciaire, celui qui veille à l'application des lois. Mais alors, d'où sort ce quatrième pouvoir ?
L'idée est apparue il y a longtemps, à la fin du XVIIIe siècle. Et elle désigne les médias, la presse écrite, la radio, la télévision et maintenant le web. On parle de pouvoir parce que les médias ont une influence immense.
Leur mission, servir de contre-pouvoir. Ils doivent surveiller les trois autres. Ils ont donc un rôle crucial dans notre démocratie.
Imaginez un match de foot sans arbitre ou un gouvernement qui prend des décisions secrètes. Ça ne va pas, n'est-ce pas ? Le rôle des médias est fondamental pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ils servent à informer le citoyen. En effet, avant tout, les médias donnent aux citoyens les informations nécessaires pour comprendre le monde et voter en connaissance de cause. Si on n'est pas informé des programmes, des actions ou des scandales, comment faire un choix éclairé ? Ensuite, ils servent aussi à révéler et contrôler. C'est la fonction de chien de garde de la démocratie. Le journalisme d'investigation, par exemple, met au jour les abus de pouvoir, la corruption ou les erreurs commises par l'État ou les entreprises puissantes. Ils servent aussi à créer le débat public. Les médias ne font pas que raconter les faits. Ils sont aussi une plateforme où les idées s'échangent, où les opinions se confrontent et où le citoyen peut se faire entendre. Ils participent à la vie de la cité. Enfin, un dernier aspect essentiel de l'importance des médias en démocratie est la diversité des opinions représentées, le pluralisme. Dans une société démocratique, il ne doit pas y avoir qu'un seul point de vue, mais plusieurs façons de raconter les faits ou d'analyser l'actualité. Avoir des médias différents permet aux citoyens de comparer les points de vue afin de s'en faire leur propre opinion et d'éviter la pensée unique. Quand les informations sont diverses et présentées sous différentes manières, l'esprit critique des lecteurs et auditeurs est davantage sollicité. Et c'est ce qui leur permet de créer leur propre avis.
Mais les médias ont également une fonction souvent oubliée, celle de mémoire. En effet, étant datés et détaillés, ils apportent une aide lorsqu'on décide de se replonger dans le passé. Ils conservent les traces des événements, des décisions politiques, des crises, des manifestations, etc. Grâce aux archives journalistiques, on peut comprendre le passé, analyser les erreurs et éviter de les répéter. Sans eux, l'histoire pourrait être falsifiée ou oubliée, ce qui pourrait affecter la démocratie.
Il est aussi souvent dit que la liberté de la presse est un thermomètre de la démocratie. Effectivement, le contenu d'un média ainsi que leur diversité permet de déduire la nature du régime de l'État observé. Plus les médias sont nombreux et libres dans leur choix de sujet, plus le régime est démocratique. Ce n'est malheureusement pas le cas des régimes autoritaires comme la Chine ou la Russie de Poutine, dans lesquels les médias sont contrôlés, censurés ou utilisés comme des outils de propagande.
Malheureusement, ce quatrième pouvoir n'est pas sans faiblesse, surtout à l'heure du numérique. La concentration des médias est un souci. En France, de nombreux journaux, radios et chaînes de télé appartiennent à de grands groupes industriels ou à des milliardaires, comme par exemple le Breton Vincent Bolloré, qui possède de nombreux médias comme les chaînes du groupe Canal+, dont C8, Canal+, CNews et CStar, les radios Europe 1 ou RFM ou encore des magazines comme Paris Match, Télé Loisirs, Géo ou Gala. On peut alors s'interroger sur la liberté réelle des journalistes de ces médias. Peuvent-ils vraiment diffuser l'information comme ils l'entendent ou doivent-ils transmettre le point de vue des patrons qui les emploient ? Cette concentration des médias menace leur indépendance et les expose au risque de manipulation. D'ailleurs, le groupe de Vincent Bolloré a été plusieurs fois condamné pour manipulation de l'information. Et en novembre 2005, il a même racheté l'École supérieure de journalisme de Paris, ce qui montre son désir de contrôler la formation des journalistes. Un autre souci des médias actuellement concerne les infox. Avec Internet et les réseaux sociaux, la désinformation se propage à une vitesse folle. Le vrai travail d'investigation qui prend du temps et coûte cher est souvent concurrencé par des rumeurs ou des informations non vérifiées qui circulent, telles celles affirmant depuis 2021 que Brigitte Macron est un homme. Le citoyen doit redoubler de vigilance.
Le concept de quatrième pouvoir est d'actualité. Il rappelle que la presse a un rôle essentiel, celui de garantir la transparence et d'être le porte-voix du public face aux gouvernants.
Pour que ce pouvoir reste utile et efficace, il est donc vital que les médias préservent leur indépendance et que nous, en tant que citoyens, continuions à exiger un journalisme de qualité.
De la musique à présent dans les ateliers radiophoniques de Canal B. On va écouter Jeanne d'Ed, Look at them.
All the trees that we do not climb, bridges we cross in our minds, who are we fooling when we cry? When she says everything is fine over her head, clouds that look like mine. Oh, why can't she wish for brighter skies? All the speeches you make in your head, all the worries that you never said, rotten fireworks kept inside waiting for a light. All the roads that you never take, fireworks
our minds, who are we fooling when we cry? When she says everything is fine, overhead clouds that look like mines, oh, why can't she wish for brighter skies?
Look at them sur Canal B dans les ateliers radiophoniques, un titre de Jeanne Dead. On file à Liffré retrouver les élèves de seconde.
Vous êtes sur Simone On Air.
Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, vous êtes avec Arthur Hérault et moi-même, William Bâton, pour vous parler de la concentration des médias. Vous vous êtes déjà demandé si l'indépendance des médias est menacée dans un pays démocratique comme la France ? Eh bien, la réponse est oui, et nous avons effectué des recherches pour pouvoir vous l'expliquer. Tout d'abord, la concentration des médias, c'est quoi ? C'est le fait que les médias soient contrôlés par un groupe restreint de personnes. En France, 34 personnes possèdent l'intégralité des médias. 18 de ces 34 personnes font partie de la plus grande fortune de France, d'après Le Monde diplomatique. Cela signifie donc que plus de la moitié des médias sont contrôlés par des riches personnes. C'est le cas du milliardaire breton Vincent Bolloré qui possède CNews, qui est la première chaîne de télé d'info en continu de France. Il a aussi la radio Europe 1, le journal du dimanche ou encore JD News, JD Mag et encore autres.
Pourquoi cette concentration des médias peut-elle être dangereuse ? Elle l'est car les médias peuvent être manipulés. En effet, les personnes souhaitent diffuser leurs idées, utiliser les médias pour influencer et censurer. Pour illustrer ce problème, on peut reprendre l'exemple de l'homme d'affaires Vincent Bolloré. Vincent Bolloré est un milliardaire qui, depuis le début des années 2000, achète de nombreuses parts dans les entreprises, ce qui lui permet de récupérer de nombreux médias pour imposer ses idées qui sont d'extrême droite. CNews est d'ailleurs régulièrement rappelé à l'ordre par l'ARCOM, le régulateur de l'audiovisuel français, pour ses outrances. En novembre 2025, Ouest France indique par exemple que la chaîne a été condamnée à 150 000 euros d'amende pour avoir qualifié l'avortement de première cause de mortalité en France. Pour éviter que la pression qu'ils exercent sur les journalistes soit sue, Vincent Bolloré verse des indemnités aux journalistes qui protestent et leur fait signer des clauses de confidentialité pour être sûr qu'ils ne puissent rien dénoncer. Mais alors, comment faire face et lutter contre cette concentration dangereuse des médias ? Pour y faire face et conserver le pluralisme des médias, il faudrait qu'il existe un statut juridique qui protège l'indépendance des médias et leur évite de subir la pression de leurs actionnaires. C'est le cas du journal Ouest France, qui est la propriété de l'Association pour le soutien des principes de la démocratie humaniste, une association à but non lucratif. Cette structure juridique lui garantit une information indépendante et de qualité.
Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la concentration des médias est un enjeu démocratique. Moins d'acteurs, c'est moins d'opinions et plus de risques d'influence cachés. Mais en comprenant le problème, en soutenant un paysage médiatique pluraliste et les médias indépendants, nous pouvons tous contribuer à défendre une information libre, indépendante et essentielle au débat public. Notre rôle de citoyen est donc primordial, c'est à nous d'être vigilants et de bien choisir nos médias, des médias qui sont indépendants.
Derrière l'info, qui dit vrai ?
Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Thaïs et Emma, nos journalistes, et Luna, que nous interviewerons dans un deuxième temps. Dans ce podcast dédié aux infos et à la désinformation, nous allons répondre à la problématique « Peut-on croire tout ce que disent les journalistes ?» Merci Zoé pour cette présentation.
La désinformation, c'est le processus qui consiste à utiliser les médias de masse, dont les réseaux sociaux, pour transmettre des informations partiellement ou totalement erronées. Une infox, c'est une information volontairement mensongère. Grâce à nos recherches, nous en avons conclu que nous pouvons croire les journalistes, car ils se renseignent auprès des sources d'où proviennent les informations et auprès de plusieurs autres sources fiables. Ils sont également neutres et ne prennent pas parti sur les sujets. Cependant, il y a certains journalistes qui ne se renseignent pas bien ou qui sont payés pour faire circuler de fausses informations. Par exemple, en Russie ou en Chine, les journalistes peuvent être payés pour les diffuser. Ainsi, le site du gouvernement défense.gouv.fr affirme que depuis janvier 2025, la France fait face à une vague de désinformation russe pour affaiblir le soutien à l'Ukraine et fracturer la cohésion nationale. Le 5 février 2025, par exemple, une vidéo truquée a circulé sur la toile affirmant que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a racheté la résidence de vacances d'Hitler, le Nid d'Aigle, dans les Alpes bavaroises. Son but, lier les Ukrainiens aux nazis afin de les décrédibiliser. Le 6 mai 2025, le service de vigilance et protection contre les ingérences numériques étrangères, Viginum, a révélé l'existence d'un mode opératoire informationnel, MOI, particulièrement virulent contre la France, Storm 1516, orchestré directement par le renseignement militaire russe GRU. Entre août 2023 et mars 2025, ce MOI a été responsable d'au moins 77 opérations de désinformation.
En France, les journalistes ne sont pas payés par l'État pour diffuser de fausses informations, mais la concentration des médias peut poser question. Par exemple, le groupe Bolloré possède de nombreux médias comme les chaînes du groupe Canal+, C8, Canal+, CNews, C-Star, l'éditeur Editis, les radios Europe 1 et RFM ou encore Télé Loisirs, Géo, Gala, Voici, Femme Actuelle, Capital, Paris Match et le Journal du Dimanche. C'est un groupe d'extrême droite qui a été condamné à plusieurs reprises pour avoir manipulé l'opinion. Aujourd'hui, le problème principal est que l'on confond volontairement information et opinion, notamment dans les médias d'opinion. Ainsi, par exemple sur CNews, on veut faire croire aux téléspectateurs et téléspectatrices que ce que pensent les journalistes, leurs convictions, leur vision du monde et de l'info, alors que non. Il faut que l'information s'appuie sur des faits vérifiés et ce n'est pas parce que certains journalistes disent des choses qui nous déplaisent que c'est la vérité. Mais heureusement, en France, il existe de nombreux médias reconnus fiables, libres et indépendants comme Le Monde ou le Ouest France.
Alors comment faire pour savoir si nous pouvons croire ou pas les journalistes? Pour le savoir, nous avons interviewé une jeune lycéenne, Luna.
Bonjour Luna et bienvenue. Tout d'abord, comment t'informes-tu au quotidien?
Je m'informe grâce aux réseaux sociaux avec Hugo Décrypte notamment, ainsi que les journaux télévisés.
Comment fais-tu pour être sûr qu'une information n'est pas fausse?
Je regarde toujours la source de l'information et je regarde si d'autres médias la diffusent pour être sûr que cela soit vrai. Je demande aussi à mon entourage s'ils en ont entendu parler et si oui, comment ils connaissent l'information.
Et enfin, penses-tu qu'il faut toujours croire les journalistes?
Je pense que c'est leur métier et qu'on doit les croire, mais tout de même faire attention aux fausses informations. Si je vois que le site n'est pas connu ou pas français, je me méfie.
Oui, exact. Par exemple, le site Le Gorafi diffuse de fausses informations avec humour. Donc il faut faire attention à ne pas croire ces informations et à les prendre avec humour.
Oui, c'est vrai.
Merci et au revoir.
Merci à vous, au revoir.
Aujourd'hui, l'information circule de plus en plus vite. Cela devient de plus en plus difficile de distinguer le vrai du faux. La montée des réseaux sociaux a transformé la manière dont nous consommons l'information, donnant parfois une plus grande visibilité aux opinions, aux rumeurs ou aux fake news, qu'à des informations vérifiées. Qui croire si la vérité est le mensonge cheval? Ce phénomène, la post-vérité, redéfinit les rapports entre fait et vérité. Dans ce contexte, la question se pose. La post-vérité menace-t-elle l'information et vivons-nous dans une ère où la vérité compte moins que le sensationnel? Pour répondre à cette question d'actualité, nous allons tout d'abord définir le thème de post-vérité. La post-vérité, qu'est-ce que c'est?
La post-vérité est un concept apparu dans les années 2000. La post-vérité désigne une situation où les émotions et les croyances personnelles ont plus d'influence que les faits. Un exemple emblématique de post-vérité est le fait que le président américain Donald Trump nie le réchauffement climatique alors que cela est prouvé scientifiquement, ce que rappellent inlassablement les chercheurs du CNRS.
Maintenant, nous allons vous expliquer les raisons du succès de la post-vérité. Pourquoi elle se diffuse autant?
La post-vérité marche bien car elle est simple, rapide, joue sur les émotions et se diffuse très facilement sur les réseaux sociaux. Le physicien et psychologue des sciences Étienne Klein disait lors d'un entretien début 2026 aux médias Stratégie que la post-vérité est produite par des personnes qui ne s'intéressent pas à la vérité. Pour lui, dans la post-vérité, ce n'est pas le mensonge qui prime, mais l'indifférence à la vérité et les faits recherchés sur l'audience. La post-vérité serait donc souvent produite par des journalistes pour qui la vérité n'importe pas beaucoup et qui veulent fournir rapidement une information, qu'elle soit vérifiée ou non.
Mais la post-vérité peut avoir des conséquences graves. Quelles sont les conséquences de la post-vérité ?
Premièrement, elle fragilise la confiance du public envers les médias. D'après Radio France, en janvier 2026, 61% des Français ne font pas confiance aux grands médias sur les sujets d'actualité. Ensuite, la post-vérité a des implications politiques. Certains discours, par exemple, reposent sur des vérités déformées pour manipuler les opinions publiques. Un exemple marquant concerne la justification de la guerre en Ukraine en 2022 par Vladimir Poutine. Il a justifié par le besoin de dénazifier l'Ukraine, alors que l'extrême droite est peu présente en Ukraine. Elle n'a eu que 2,3% des suffrages lors des dernières élections législatives de 2019, d'après le journal Le Monde.
Même si la post-vérité a une place importante dans notre société, il y a plusieurs moyens de lutter contre elle. Quels sont les moyens de lutter contre la post-vérité ?
Le premier est l'éducation aux médias. Si dès le plus jeune âge, on apprend aux enfants comment distinguer le vrai du faux, savoir vérifier des faits et développer leurs pensées pour ne plus se faire piéger par des fake news, alors il y aura de moins en moins de post-vérité. Le deuxième moyen est d'encourager la transparence, demander aux journalistes de donner toutes leurs sources. Le dernier moyen est l'amélioration des algorithmes des réseaux sociaux pour favoriser les informations vérifiées.
Alors, la post-vérité menace-t-elle l'information ?
La réponse est oui, mais ça ne veut pas dire que la vérité n'a plus sa place. Au contraire, le rôle des journalistes, des citoyens responsables est de vérifier les informations qu'ils ou qu'on consomme. Il est essentiel de questionner les sources des informations et de s'assurer que ce qui est partagé dans les journaux, par exemple, repose sur des faits vérifiés, pas sur des émotions ou des infox. Entre une information basée sur l'émotion et une information basée sur les faits, il reste toujours un choix, le nôtre en tant que citoyen responsable.
Encore de la musique dans les ateliers radiophoniques sur Canal B. On va écouter les Suisses de Tout Bleu et leur titre Baleine.
Thank you.
Baleine, un titre de Tout Bleu sur Canal B dans les ateliers radiophoniques.
Canal B, radio curieuse.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur mon podcast Simone Veil. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question « Comment lutter contre l'infobésité ?». Nous décrypterons cette notion dont on entend régulièrement parler avec Yuna et Maë, qui sont actuellement avec nous.
J'en ai marre, je ne sais plus où donner de la tête, il y a trop d'informations. Je reçois constamment des notifications d'une multitude de sites différents, je suis perdue.
Ça s'appelle l'infobésité, je crois, mais je ne sais pas comment nous pouvons lutter contre.
Yuna a raison, ce que subit Maë est bien de l'infobésité. Mais soyons plus précis et donnons une définition simple à nos lecteurs.
L'infobésité est composée des termes « information » et « obésité », qui signifient tout simplement une surcharge d'information. Ce terme date de 1962 et a été inventé par Bertram Cross, professeur de sciences politiques à l'Hunter College à New York, d'après Wikipédia et la LC Academy.
C'est si vieux que ça ! Pourtant, il n'y avait pas Internet et les réseaux sociaux.
Tu as raison. Internet, les réseaux sociaux et même les chaînes d'information en continu qui ont accéléré l'infobésité n'existaient pas à cette époque. Mais il y avait de nombreux journaux et radios qui y contribuaient. Alors l'origine de cette infobésité, c'est l'abondance de médias ? Non, ce n'est pas que l'abondance des médias. Surtout la quantité d'informations que diffuse chacun d'eux et à laquelle nous sommes constamment confrontés.
De plus, ces informations ne sont pas toujours bien analysées, ce qui peut conduire à une réalité des faits modifiée.
Oui, maintenant que vous le dites, je pense souvent tomber sur des fausses informations ou sur une analyse manipulée de l'actualité et croire que cela me pousse à moins m'informer.
En effet, selon la montagne, cette croyance pousse 54% des gens à se couper des informations.
Ces informations, biaisées, sont diffusées par des personnes ou même des médias qui cherchent à diffuser leur point de vue ou à faire de l'audience sans prendre le soin de vérifier les sources, ce qui peut modifier la réalité. Certains y croient et repartagent ces informations. Et nous finissons par avoir des tas et des tas d'informations fausses.
Parfois c'est vrai, je crois en des informations et je les repartage. C'est la plupart du temps des photos. C'est fiable, non ?
Effectivement, on peut penser que les images sont sûres de nos jours. Mais de nos jours, elles peuvent avoir été modifiées par l'IA, l'intelligence artificielle.
C'est vrai que je ne prends pas le temps de les vérifier.
Mais alors, quelles sont les solutions pour lutter contre l'infobésité ?
Il faut prendre son temps et trier avant de repartager.
Et donc croiser les sources en vérifiant sur plusieurs médias fiables, qui sont indépendants et reconnus.
Moi, je m'informe sur Revue 21 parfois. C'est un média fiable ?
Oui, c'est ce qu'on appelle des « slow media ». Ils prennent le temps de publier des articles recherchés avec des sources fiables. Revue 21 est un des pionniers du « slow journalisme ». Mais il en existe de nombreux, comme le 28 minutes sur Arte que je recommande.
Je continuerai à m'informer dessus alors. Au revoir et merci beaucoup pour avoir répondu à nos questions.
Oui, merci à vous. Je regarderai 28 minutes dorénavant.
De rien, c'était un plaisir d'échanger avec vous. C'est ainsi que se termine cet épisode. Si vous devez en retenir quelque chose, c'est que l'infobésité est une surcharge d'informations. Ce terme date de 1962, qu'elle est causée par l'abondance des informations qui, suivant les médias, ne sont pas toujours entièrement neutres et vraies, à cause d'un manque d'analyse de certains, et finit avec des repartages qui nous embrouillent. Son risque est donc de nous détourner des médias. Pour empêcher cela, il faut trier ces informations et surtout bien choisir ces médias fiables et indépendants, notamment les slow médias.
Sur ce, nous espérons que cet épisode vous a plu et qu'il a clarifié ce sujet. Merci d'avoir écouté mon podcast Simone Veil. À très bientôt.
Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question suivante. Pourquoi s'informer avec les influenceurs peut-il être néfaste ? Tout d'abord, je vais vous parler des jeunes et l'information. D'après l'étude de l'INJEP 2024, le rapport des jeunes à l'information est de 71% des 15-30 ans s'informent plusieurs fois par semaine. Pour 37% des jeunes qui s'informent grâce aux journaux télé et 53% grâce aux réseaux sociaux. Les influenceurs occupent une place majeure car la première source des jeunes sont les influenceurs et les réseaux sociaux pour les moins de 35 ans. Pour 23% des jeunes, 18-24 ans, YouTube est la première source d'information, d'après l'étude de l'Institut Reuters 2024. En effet, en 2025, 22% d'entre eux déclarent consulter Hugo Décrypte pour s'informer.
Le mot influenceur fait sens, c'est celui ou celle qui influence, conseille, recommande. Pas obligatoirement celui qui informe.
Une position ambiguë. Le modèle économique de YouTube entre journalisme et influence ne permet pas de clarifier la confusion. En effet, leur succès et donc leur revenu dépendent du nombre de vues et indirectement des produits qui seront achetés par les consommateurs à la suite du visionnage des vidéos. Hugo Travers, du fait de sa notoriété, peut utiliser une voix off pour diffuser les publicités à sa place. Les autres sont tenus de citer des marques ou des services. Il s'agit donc aussi de commerce. De plus, même les influenceurs les plus sérieux ne bénéficient pas d'aide publique à la presse. Hugo Décrypte, qui a 20 millions d'abonnés, est subventionné à 0 euro. Donc, la question de savoir s'il faut donner des labels à certains youtubeurs peut être posée. En tout cas, on note un besoin de créateurs de contenu d'information, d'être reconnus et surtout de ne pas être confondus avec ceux qui partagent leur opinion, passion ou hobbies.
Peut-on croire les influenceurs ? L'enquête derrière les écrans menée fin 2024 auprès de 500 influenceurs dans 45 pays révèle une réalité troublante. 62% des créateurs de contenu ne vérifient pas leurs sources avant publication. La question du réchauffement climatique est l'un des sujets les plus fréquemment touchés par la désinformation. Le problème n'est pas seulement le très grand nombre de créateurs, mais aussi les mécanismes de diffusion eux-mêmes. En effet, du fait des algorithmes, les vidéos honnêtes fondées sur des études scientifiques ne sont envoyées qu'à ceux qui y sont déjà sensibles. À l'inverse, l'effet des fake news est démultiplié par les réseaux. On doit donc douter de ce moyen d'information.
Pourtant, certains font-il un travail journalistique fiable ? Dans l'équipe d'Hugo Décrypte, il y a des journalistes accrédités. 16 journalistes sur les 40 de l'équipe ont une carte de presse. Des gens comme Vince Canté ont su modifier leurs pratiques pour proposer des contenus intéressants. Cet ancien animateur sur Fun Radio a créé sa chaîne YouTube Limits, entièrement consacrée à l'écologie. La vulgarisation indispensable n'altère pas la vérité scientifique des propos. Les vidéos sont systématiquement vérifiées par des chercheurs.
Finalement, on constate que des obstacles empêchent d'accorder sa confiance aux médias sociaux pour s'informer. Toutefois, le travail d'explication et de vulgarisation permet de rapprocher les jeunes des sujets d'actualité.
Merci de nous avoir écoutés, c'était comme Johan et Soen.
Au revoir.
Canal B 94.0.
Comment s'informer quand on est lycéen ?
Salut et bienvenue dans ce nouveau podcast avec
Arthur,
Daphné
et Louise.
Aujourd'hui, nous allons parler du thème de l'information chez les jeunes en répondant à la problématique « Comment s'informer quand on est lycéen et lycéenne ?» Nous vivons dans un monde où l'information circule partout, tout le temps, à travers les réseaux sociaux, les conversations, la radio, la télévision. Cependant, toutes les informations ne sont pas bonnes et nécessaires. Dans ce podcast, nous verrons où les lycéens s'informent et comment repérer une information fiable.
En France, un peu plus de la moitié des adolescents jugent important de s'informer, c'est-à-dire 58% selon le site Vie Publique.
Lorsque l'on demande aux lycéens où ils s'informent, la réponse la plus courante, ce sont les réseaux sociaux. D'après Vie Publique, 53% des adolescents suivent les actualités grâce à ces plateformes, tous les jours, voire plusieurs fois par jour. TikTok, Instagram, Snapchat sont des réseaux sociaux qu'on ouvre dès le matin. Ce sont aussi eux qui nous donnent les actus le plus rapidement, tout comme les chaînes d'infos en continu et les radios qui sont aussi rapides, mais que les jeunes trouvent moins pratiques. L'avantage des réseaux, c'est simple, court et explicite. Cependant, il y a des gros problèmes. Les informations ne sont pas toutes correctes et donc il ne faut pas considérer les réseaux sociaux comme des organes de presse. Ils sont tout sauf ça. Les journaux télévisés sont aussi utilisés par les lycéens, puisque 37% des ados s'y informent. On retrouve aussi d'autres moyens tels que le moteur de recherche, les chaînes d'information en continu, mais aussi les conversations et enfin la radio. Et malheureusement, les podcasts sont les moins écoutés, sauf qu'aujourd'hui, avec le nôtre, ça va changer.
Bon, il existe donc de nombreux et divers moyens de s'informer, mais tous ne valent pas et on doit se méfier des réseaux sociaux. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous redire comment vous vous informez. Mais attention, ce que nous venons de dire est une moyenne nationale. Ce n'est pas pareil partout. Dans le lycée Simone Veil, proche de Rennes, une étude a aussi été faite auprès de 274 lycéens et lycéennes. Les moyens utilisés pour s'informer sont similaires à ceux des lycéens français. Nous retrouvons les réseaux sociaux en première place et les journaux télévisés à la suite. Cependant, nous observons que les discussions avec l'entourage sont plus présentes qu'ailleurs en France, de 8%.
S'informer, ce n'est pas seulement recevoir une information, mais c'est aussi la vérifier. Nous venons de le voir, il existe beaucoup de façons d'être informé. Cependant, plus il y a d'infos, plus on s'y perd. C'est comme lorsque tu rentres dans un énorme magasin et que tu viens pour acheter des pâtes, sauf qu'il y a tellement de marques et de formes différentes que tu t'y perds. Tu ne sais plus ce qui est bon ou pas. Eh bien, les actualités, c'est la même. Trop de différentes versions existent, il faut apprendre à faire le tri.
Mais comment ? Il faut croiser les sources, c'est-à-dire comparer la même info avec différents sites. Si une information n'apparaît que sur un seul site, méfiance.
Mais ce n'est pas tout. Il faut également se poser des questions, du style « Qui parle ? Un journaliste ? Un expert ? Un simple témoin ou un influenceur ? D'où viennent les chiffres, inventés ou bien sourcés ? Est-ce une opinion ou un fait ?» Il faut faire attention, les influenceurs donnent très souvent leur point de vue.
Vigilance, les fake news circulent partout. Mais comment les repérer ? Eh bien c'est facile, il n'y a pas de source, une image choquante et hors du contexte, un titre trop grandiose et quelque chose de trop incroyable pour être vrai. Mais attention, ici on parle d'une généralité, mais il existe des exceptions, surtout à l'heure d'aujourd'hui où le monde n'a plus aucune limite. Ceux et celles qui souhaitent que tout le monde pense comme elles et eux sont très malins et diffusent subtilement des fake news.
On vous a donc sélectionné plusieurs médias fiables afin que vous puissiez vous informer en toute sérénité. Certaines chaînes sur les réseaux sociaux sont intéressantes à suivre, comme Mediapart, Libération et Blast. Et si vous êtes plutôt team radio et podcast, alors écoutez France Culture, France Info et France Inter. Si vous préférez la télé et les vidéos, regardez 28 minutes d'Arte ou bien Arte Journal et LCI. Enfin, lisez Le Monde, Ouest France, Libération et Le Figaro si vous êtes plus team papier. Vous pouvez également vous rendre au CDI et y lire des journaux et magazines proposés sur place. Pourquoi pas Phosphore, Topo et Lac.
Bon, ça fait beaucoup. Pour résumer, s'informer quand on est lycéen, c'est pas si compliqué. On a accès à beaucoup de sources, mais il faut savoir faire le tri et vérifier l'information.
Cela annonce la fin de ce podcast. On espère que ce podcast vous a éclairé et qu'il aura été de bons conseils. Salut, salut à tous et à bientôt pour un nouveau podcast.
Meuf, t'as vu les dernières infos qui tournent ? Mais attends, t'es sûr que c'est vrai ?
Ça j'ai fait, je vais vous montrer les moyens de vérification de l'information.
Quels sont les moyens de vérification de l'information ? Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment ne pas se faire piéger par les fake news. Sur Internet comme dans la vie réelle, ce n'est pas parce qu'une source donne une information qu'elle est vraie. Avec les nombreux contenus publiés au quotidien sur les réseaux sociaux et les plateformes de vidéos, les lecteurs et les journalistes doivent être vigilants pour s'assurer que les informations sont vraies en utilisant le fact-checking. Mais quels moyens de fact-checking faut-il utiliser ? Imagine, tu scrolles sur TikTok et là tu vois « News, des extraterrestres envahissent la Bretagne » avec à l'appui une photo et un site web. Comment savoir si c'est vrai et si tu dois te préparer à une attaque ?
Mais d'abord, qu'est-ce que le fact-checking ? Le fact-checking est une technique consistant à vérifier l'exactitude des informations. Cette technique est née dans les années 1920 aux États-Unis. Elle s'est intensifiée dans les années 1940 avec la Seconde Guerre mondiale et la lutte contre la propagande ennemie, l'antisémitisme, le racisme et tout ce qui divise un pays en guerre. Longtemps laissée de côté, cette technique est revenue en force dans les démocraties avec l'arrivée des chaînes d'infos en continu, les réseaux sociaux, les fake news, etc. Aujourd'hui, elle fait ses preuves face aux infox.
Comment vérifier une information ? Pour commencer, vérifie qu'il s'agisse d'une source fiable. Et pour cela, plusieurs éléments sont à prendre en compte. Le nom du média, le nom du journaliste, la date de publication. Une source sérieuse indique toujours qui parle, quand et dans quel contexte l'information a été produite. De plus en plus de journalistes sourcent leurs articles et reportages. Par exemple, les journaux de TF1 et France Télévisions ajoutent parfois un QR code à l'écran, ce qui permet de vérifier directement les sources utilisées. On peut aussi faire confiance à des sources provenant de grandes institutions ou de sites reconnus comme info.gouv.fr.
Dans le cas de ton TikTok, il ne s'agit pas d'une source fiable. Et lorsque tu vas sur leur site, il s'agit d'un site anonyme.
La deuxième méthode est de croiser les sources. Une information qui n'apparaît que sur une seule source ou qui vient uniquement d'une vidéo TikTok ou Instagram doit être prise avec du recul. En revanche, si une info est vraie, elle est généralement reprise par plusieurs médias fiables. Croiser les sources permet aussi d'éviter la manipulation et de repérer plus facilement les mensonges.
Tu cherches donc d'autres informations sur cette invasion, mais tu ne trouves rien.
Pour vérifier si une information est fiable, on peut utiliser des sites spécialisés dans le fact-checking. Les décodeurs du journal Le Monde publient des articles et des enquêtes en ligne permettant de décrypter l'information. Le fact-checking de l'agence France Presse compile les derniers articles vérifiés au niveau international. Le vrai ou faux de France Info propose chaque jour des contenus de vérification et de décryptage de l'actualité. Des intox sur Arte TV, l'émission passe au radar l'actualité, filtre les intox et démêle le vrai du faux à travers des vidéos pédagogiques.
Il y avait aussi une photo avec ton TikTok, mais comment savoir s'il s'agit d'un photomontage ? Aujourd'hui, beaucoup de fausses informations passent par des images ou des vidéos. Pour vérifier si une image est vraie, on peut utiliser la recherche inversée d'images avec Google Images ou Thin Eyes. Ces sites permettent de savoir si une image que vous détenez est déjà apparue sur Internet. Cela peut être utile dans une situation où une source déclare, par exemple, que cette photo est toute récente ou pour savoir si l'image a été retouchée.
Tu testes donc avec ta photo de soucoupe volante dans la nuit et Google Images trouve deux images. Une d'un paysage de nuit qui correspond à ta photo mais sans la soucoupe et une d'une soucoupe volante étrangement similaire à celle de la photo. Pour les vidéos, il existe des sites similaires comme celui d'Amnesty International.
Les titres accrocheurs peuvent être trompeurs. Certains médias utilisent des formulations exagérées pour attirer des clics. Il faut donc lire l'article en entier et vérifier l'infographie et la mise en page. S'il y a beaucoup de fautes et si les arguments sont vagues, ce n'est peut-être pas fiable. Un titre peut faire croire qu'une information est incroyable alors qu'en réalité, elle l'est beaucoup moins spectaculaire.
Dans ton cas, News des extraterrestres envahissent la Bretagne, le titre est très accrocheur, voire alarmant. Mais quand tu lis l'article, tu te rends compte qu'il s'agit juste d'un objet volant non identifié qui a été aperçu au-dessus de Rennes. Il n'y a donc jamais eu d'extraterrestres.
Enfin, le plus important, c'est l'esprit critique. Premièrement, se poser des questions simples, comme d'où vient l'information ? S'agit-il d'une source primaire ? Ou si elle provient de quelqu'un, a-t-elle pu être déformée ? Est-ce que l'auteur donne des preuves ? Est-ce qu'elle semble trop incroyable ? Est-ce que le ton est émotionnel ou, au contraire, informatif ? Ou encore, pourquoi cette information existe-t-elle ?
L'important, c'est d'être certain d'avoir compris tous les mots qui sont employés, d'éviter de surinterpréter ce que l'on ne voit pas, car le cerveau humain est extrêmement fort pour faire des liens souvent trop vite. Il faut s'interroger sur ce que l'on voit et pourquoi on l'interprète de telle ou telle façon. Ces réflexes permettent déjà d'éviter la plupart des fake news.
Donc, news des extraterrestres envahissent la Bretagne. Sur le moment, ça paraît impressionnant et beaucoup de gens y croient. Mais si on utilise l'esprit critique, on se pose quelques questions simples. D'où vient l'information ? Le compte est anonyme, ce n'est pas un spécialiste. Est-ce que l'auteur donne des preuves ? Il n'y a ni étude, ni lien vers un site officiel, juste une photo. Est-ce que le ton est émotionnel ou au contraire informatif ? Le discours est alarmiste, ce qui est souvent un signe de manipulation. Est-ce qu'il semble trop incroyable ? Des extraterrestres, ça paraît peu crédible. Et pourquoi cette information existe-t-elle ? Tu te rends compte que le TikTok a des millions de vues.
Il faut aussi se méfier de nos émotions. Aujourd'hui, certains politiques et journalistes jouent avec, c'est dangereux.
Ton info était donc bien fausse, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Mais au moins, maintenant, tu sais comment ne plus te faire avoir par de fausses informations.
L'importance des sources.
Bonjour à toutes et à tous. C'est l'heure de l'émission où on répond à l'une de vos questions. Nous sommes trois lycéens de seconde du lycée Simone Veil. Aujourd'hui, on nous a posé comme question quelle est l'importance des sources dans le journalisme. On va pouvoir en débattre ensemble et tenter de vous apporter la meilleure réponse qu'il soit. Tout d'abord, il ne faut pas confondre source, témoignage et lanceur d'alerte. En effet, ce sont trois choses différentes.
Alors, une source, c'est l'origine d'une information. Une personne contacte des journalistes pour révéler un scandale ou une affaire sensible à la presse. Certaines fois, cette source cherche à déceler et à rapporter des informations sensibles et les attentions ou les actes de personnes malveillantes. Elle garde alors son anonymat. Elle peut aussi être contactée par le ou la journaliste qui, après enquête, trouve son intervention indispensable. Bien sûr, une source ne reçoit jamais d'argent des journalistes et des médias. En outre, elle est protégée par la loi.
Le témoin, c'est une personne ayant assisté aux faits, aux événements, qui rapporte ce qu'elle a vu ou entendu. Cette personne peut confirmer des faits en témoignant et donc sert à établir la vérité. Par exemple, Marie Oukastanyou, David Fritz-Gaepinger et bien d'autres victimes ou otages survivants de l'attentat du Bataclan ont témoigné de l'horreur qui s'est déroulée de cette salle de spectacle. Cependant, il faut tout de même faire attention aux faux témoignages.
Et un lanceur d'alerte, c'est une personne qui signale ou divulgue de bonne foi, sans contrepartie financière, les informations concernant une menace sur l'intérêt général. Elle peut relever de comportements illicites ou dangereux qui mettent en danger l'homme, l'économie, l'État ou l'environnement. C'est une personne qui porte à la connaissance du public des faits qu'elle juge préoccupants pour la société. On peut donner comme exemple Irène Frachon. Cette femme est une pneumologue qui a alerté sur les dangers d'un médicament appelé Mediator qui provoquait de graves problèmes pulmonaires pouvant entraîner la mort.
Il est important de vérifier les sources. En effet, les sources non vérifiées ne sont pas fiables car certaines sont déformées ou ne reflètent pas la réalité. Certaines fois, les sources sont instrumentalisées par des opinions ou des personnes politiques. Une source, pour être prise en compte et considérée comme crédible, doit fournir des preuves de ce qu'elle révèle.
Oui, mais il est aussi important de protéger les sources. En effet, les journalistes ont le devoir de protéger leurs sources qui gardent leur anonymat pour plus de sécurité. En France, c'est prévu par la loi. De plus, certaines sources se mettent en danger en parlant aux journalistes car elles ont des informations compromettantes envers des personnalités puissantes. Elles risquent d'être réduites au silence par la force, la contrainte ou encore la menace. Les journalistes sont aussi concernés. On peut citer les cas de Denis Robert et l'affaire Clearstream et d'Ariane Larvrieux qui a approuvé la vente d'armes par la France à des régimes autoritaires.
D'ailleurs, une loi relative à la protection du secret des sources existe depuis le 4 janvier 2010. Cette loi donne le droit et permet aux journalistes de garder le silence sur leurs sources, notamment lors d'un interrogatoire de police.
Oui, on peut même donner encore une fois l'exemple d'Ariane Larvrieux. Cette journaliste a dévoilé que l'État français aurait fourni à l'Égypte des informations utilisées pour commettre des crimes. Elle a eu cette information par une source ayant décidé de briser le secret. Suite à ces éléments dévoilés dans la presse, la journaliste est mise en garde à vue et son domicile est perquisitionné pour trouver l'identité de cette source. En vain. Ariane Larvrieux a protégé sa source et ne l'a donc pas dévoilée aux forces de l'ordre, grâce à la loi de 2010. Elle n'est pas pour autant sortie d'affaire, elle attend qu'une juge statue.
On peut donc dire que les sources dans le journalisme sont très importantes car elles transmettent l'information à la presse pour mieux informer les gens. De par leur importance, les sources gardent leur anonymat et sont protégées par la loi pour que personne ne puisse porter atteinte à celle-ci.
On arrive maintenant à la fin de cette émission, à la semaine prochaine.
Le second épisode de l'émission des élèves de seconde du lycée Simone Veil de Liffré est terminé. Vous pourrez retrouver les deux émissions sur le blog des ateliers radiophoniques sur le site de Canal B. À bientôt, salut.
Les ateliers radiophoniques de Canal B.